MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Êtes-vous débordé par toutes vos responsabilités? Est-ce que vous avez l'impression de crouler sous une charge gigantesque? Hier, on a parlé de notre gestion du temps, de comment on peut rattraper le temps. Eh bien, aujourd'hui, on va voir toutes ces responsabilités qui nous incombent et à quel point, parfois, elles sont mal gérées, voire déséquilibrées. Et j'en parle avec Annabelle et Frank. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Frank, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique famille très attendue par des épouses, peut-être un peu moins par des époux. De quoi tu vas nous parler?
Ouais, je vais faire ça après la pensée du jour.
Oui. Pas maintenant, effectivement, comme nous avons l'habitude de le faire.
Partager quelques points dans cette rubrique. Laquelle, avec l'aide de Dieu, je vais pouvoir aider plusieurs maris. Alléluia!
Ok, donc Frank va nous parler du rôle du mari dans un foyer chrétien. Et j'aurais bien aimé te donner une rubrique sur un mari doit-il faire des tâches ménagères?
Ah oui,
t'as été épargnée.
Pourquoi t'aurais aimé ça?
J'aurais bien aimé t'entendre parler là-dessus.
Mais il en fait, Frank.
Oui, ouais. Oui, mais c'est le dire à toute la francophonie.
Moi, je l'ai dit, c'est bon. Frank fait des tâches ménagères chez lui.
Et j'en ai pas
voilà,
honte.
Je le dis.
C'est bien. Ouais. C'est pour ça que tu es l'homme de la situation pour cette rubrique.
Bah, je sais pas, mais on va essayer en tout cas.
T'es un bon mari. Tu vas pouvoir inspirer des hommes.
Avec l'aide de Dieu.
Amen, mon frère, amen. Ok, on va commencer tout de suite cette émission.
Eh oui.
Nous allons parler de toutes ces responsabilités que nous avons à gérer et de leurs priorités dans nos vies, dans la pensée du jour.
On a tous des vies occupées et on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, que ça ne va jamais se terminer, que dès qu'on finit quelque chose, il y a encore autre chose qui arrive. Et c'est facile de se sentir débordé, c'est facile de se sentir submergé par toutes ces tâches et aussi ces responsabilités. Et lorsqu'on parle de responsabilité, ça veut dire qu'il y a une certaine pression. Vous êtes responsable du succès ou de l'échec de certaines choses. Il y a des personnes sous votre responsabilité si vous êtes à la tête d'une entreprise. Des familles vivent à cause, grâce au salaire qu'ils peuvent avoir dans votre entreprise. Alors chaque mois, vous vous dites, il faut qu'on puisse avoir assez de chiffres pour pouvoir garder ces personnes, pour pouvoir les payer, pour qu'il n'y ait pas de licenciement. C'est aussi la responsabilité de pouvoir envoyer nos enfants à l'école, de pouvoir les aider. Bref, les responsabilités sont multiples. Et quelquefois, on peut se sentir tellement désemparé. Et j'aimerais premièrement vous rappeler que Dieu est bon. Et tout ce que Dieu nous donne, toute la charge, les responsabilités qu'il nous donne, c'est pas pour nous écraser. Et tout ce qu'il va nous demander de faire, toutes les responsabilités qu'il nous confie, c'est parce qu'il nous donne aussi la grâce de pouvoir les accomplir. Alors premièrement, c'est de se dire, Dieu est bon, ces choses-là ne sont pas là pour me détruire. Maintenant, s'il y en a trop dans ma vie, si la grâce ne suffit pas, c'est peut-être que moi j'ai voulu rajouter des choses. C'est peut-être que moi j'ai voulu prendre des responsabilités que Dieu ne m'a pas demandé de prendre. L'autre cas aussi, c'est que dans ces responsabilités que Dieu m'a données, que Dieu m'a confiées, peut-être que j'oublie souvent de me confier en lui, j'oublie de me confier dans sa grâce, j'oublie de me reposer en lui, de lui faire confiance et de lui dire, Seigneur, au final, à la fin de cette journée, c'est en toi que moi je me confie. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je n'arriverai pas à faire sans toi. Alors je te les remets. Je me décharge de tous mes fardeaux. Et je sais que dans ta bonté, tu prends soin de moi. Je sais que c'est toi qui vas t'occuper de moi. Et quelquefois, on est tellement débordé qu'on oublie de le faire. Et de jour après jour, on accumule tous ces poids, on accumule et puis on devient épuisé. Mais Dieu est là. Mais laisse-moi tes fardeaux. À chaque jour suffit sa peine. Et les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Mais nous, quelquefois, on oublie de repartir à zéro. On oublie de déposer nos fardeaux. On oublie que Dieu est bon et on oublie que sa grâce nous suffit. Et pour terminer, j'aimerais aussi vous encourager avec cette parole que Jésus a donnée lorsqu'on lui a demandé « Mais c'est quoi le plus grand des commandements ?» Jésus répond Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors j'aimerais vous encourager à remettre votre relation avec Dieu au premier plan, à pensez à vous rappeler que Dieu vous appelle à aimer les autres et de là va découler un ordre surnaturel, un ordre divin qui va faire que vous allez pouvoir traiter vos responsabilités mais avec les bonnes priorités.
Yes, merci Annabelle. On a vraiment parfois de multiples casquettes sur la tête, mais tellement que le poids des casquettes parfois peuvent nous tomber dessus. Il y a un terme qui est sorti dans les, je sais pas, peut-être les 10 dernières années, c'est ce fameux terme de la charge mentale ou le burn-out parental, souvent maternel, mais pas toujours, hein, ça peut être aussi paternel. Et c'est des choses qui sont quand même assez nouvelles. Alors peut-être qu'avant on en parlait aussi moins, hein, forcément les langues se délient, mais il y a une réalité, c'est que plus on a de responsabilités différentes, plus la charge est lourde. Et dans notre société, c'est devenu normal d'avoir vraiment plusieurs casquettes dans nos vies. Être juste parent, non, c'est pas suffisant. Être juste employé, c'est pas suffisant. Et on va encore faire des activités, et on va encore faire ci, faire ça. Et les enfants, il faut qu'ils aillent faire du sport, il faut qu'ils jouent d'un instrument de musique, il faut que ci, il faut que ça. Et en fait, ces responsabilités, non seulement elles ont augmenté en quantité, dans le sens où il y a plus de responsabilités, mais je trouve qu'elles ont augmenté en charge aussi. On augmente la charge de nos responsabilités. Il faut qu'on soit plus performant au travail. Il faut qu'on soit de meilleurs parents. Il faut qu'on soit une meilleure épouse, un meilleur mari. Et on est toujours dans un domaine même de performance qui augmente cette fameuse charge mentale qu'on peut porter. Et puis certains finissent simplement par craquer parce que justement, il y a du désordre dans ces responsabilités. Il y en a parfois trop, parfois une pression qu'on se met soi-même qui n'est pas nécessaire. Et c'est tellement lourd, c'est tellement lourd qu'on a l'impression qu'on va exploser par moment. Et peut-être ça vous parle quand je parle d'exploser. Peut-être vous dites, je suis sur le bord de l'explosion. Ben, n'explosez pas, mais il y a des décisions à prendre. Il y a des moments dans la vie où on doit s'asseoir et puis faire des constats. Et les constats peuvent être parfois négatifs, de se dire, bon, ben, j'en ai trop pris, j'ai trop voulu en faire. Est-ce que Dieu m'a vraiment demandé de porter cette charge-là? Est-ce que parfois, je porte, moi, une charge que Dieu devrait porter dans tel ministère, pour ceux qui sont peut-être pasteurs ou évangélistes ou peu importe? Il y a différentes manières de rectifier, de ramener un équilibre pour que ces responsabilités ne viennent plus nous écraser et nous faire imploser, finalement.
En tout cas, il y a une chose qui est sûre, ça n'amène aucune solution. Vous allez voir, c'est un constat absolument fataliste. C'est qu'on n'est pas fait, l'humain n'est pas fait pour vivre au rythme auquel on vit aujourd'hui.
C'est sûr.
Et c'est pour ça qu'il y a tout le temps cette tension. Maintenant, on vit dans ce siècle et on n'est pas, la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais il y a des emails aujourd'hui, il y a la messagerie. Tu ne vas pas être la seule personne de la Terre à envoyer une lettre. On attend une réponse urgente. Bah, c'est sûr, tu vis au rythme. Après, Dieu, dans sa bonté, nous donne aussi sa grâce pour vivre dans ce temps. Mais à nous de connaître nos limites aussi et de ne pas entrer, de ne pas nourrir non plus ce système. Je regardais l'autre jour une émission sur... une émission sur...
les pop-up... Bizarre,
ouais. Non, mais sur les pop-up girls.
Oui, c'est bizarre.
Non, mais en fait, ils montraient l'évolution de ce sport qui, au début, les filles, elles faisaient des roues, elles levaient un peu les jambes, elles faisaient ça. Mais c'est devenu aujourd'hui un sport hyper athlétique, mais vraiment extrêmement demandant. Il y a énormément de blessures, énormément de chutes et tout ça. La fille, une petite fille, là, à 15 ans, elle avait déjà fait 5 commotions. Pourquoi? Parce qu'on pousse toujours plus loin. Et en fait, c'est pareil dans notre quotidien. On nous pousse toujours plus loin, à plus de performance, plus vite, plus d'accomplissement, plus. Et si notre relation avec Dieu n'est pas forte, on va se laisser emporter par tout ça en croyant que c'est aussi le modèle de la réussite. Et c'est pour ça, vraiment, je veux insister, lorsque Dieu est au centre de notre vie, Dieu va venir remettre de l'ordre. Et c'est lui qui va poser ses limites et qui va dire non, en fait, toi, tu ne peux pas travailler jusqu'à 20 heures parce que tu vas perdre ton mariage, tu vas perdre tes enfants et peut-être que ton entreprise va réussir. Et c'est là où, bah, du coup, on se met un poids de responsabilité mais qu'on ne gère pas avec Dieu. Et c'est là où on casse, c'est là où on fait des burn-out, où on vit du surmenage et tout ça.
C'est ça, c'est qu'en fait, parfois, la charge est tellement grande, il y a tellement de responsabilités, et c'est bizarre, mais on va avoir tendance à les responsabilités les plus importantes qui devraient être prioritaires, à les mettre de côté, parce qu'elles nous paraissent tout à coup secondaires. Et on a parlé de la relation avec Dieu, mais la famille, la vie de couple, les enfants, c'est une vraie priorité. Et la Bible en parle, on va regarder tout de suite notre verset du jour. C'est dans 1 Timothée au chapitre 5 et au verset 8. La Bible est très, très claire à ce sujet. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. La Bible est même dure à ce sujet-là. Mais ses responsabilités familiales, d'éduquer nos enfants, de prendre soin de notre époux, de notre épouse, d'avoir vraiment d'être un membre actif dans la famille, dans le noyau familial et d'en prendre soin, c'est une vraie responsabilité qui vient de Dieu. Et va savoir pourquoi, tout à coup, le travail ou l'activité même extrascolaire ou autre de nos enfants peut devenir prioritaire au temps de qualité. Il faut absolument que mon enfant fasse un sport. Mais je ne lui ai pas parlé, je n'ai pas eu un seul moment dans la semaine où on a eu un cœur à cœur. Mais il faut absolument qu'il ait à son match de foot. C'est des priorités qui sont complètement inversées et on oublie complètement de revenir à des choses qui sont finalement essentielles et qui vont nous faire du bien en plus. Passer du temps de qualité en famille avec notre épouse, notre époux, ça va nous faire du bien. Mais va savoir pourquoi, ça va toujours passer au second, au troisième, quatrième plan parfois.
Ouais, et puis des fois, non, c'est non. Donc, dans ta semaine, quand tu sens que tu es sur le point d'exploser et que tu fais une analyse et un constat de ton horaire chargé à pu finir, tu dois dire non. Et c'est toi qui vas pouvoir le dire.
Ouais.
Telle chose va venir de l'extérieur, un truc par rapport, qui est tellement pas prioritaire, qui est en arrière de la famille, en arrière de l'Église, en arrière de ta relation avec Dieu, évidemment. Alors, et cette chose-là va venir, et les gens ont de la misère à dire non.
Ouais.
Dis non! Non! Est-ce que tu veux faire ça? Non!
Non!
Mais pourquoi? Parce que, tu vois, et t'as pas à te justifier toute ta vie de pourquoi tu dis des non. Amen! Alléluia! Je vais continuer.
C'est puissant.
Tu vois, là, tu fais ton tableau de ta semaine. Moi, mes journées sont déjà tous, j'en ai déjà parlé avec Evelyne, établies. Du lever au coucher, mes semaines sont chargées, oui, mais avec des choses que je considère comme étant importantes. Je dois avoir ma petite dose de fun. Sinon, je vais devenir irritable.
Grognon, de mauvaise humeur,
ouais,
bougon.
C'est moins le fun d'être avec moi. Donc, j'ai mis le doigt sur, dans ma vie, les trois choses qui me donnent et qui me font du bien quand je pratique ces choses. Donc, je connais et je sais qu'est-ce qu'il faut pour que ça aille bien. Tu vois? Et là, déjà là, je vais donner un petit peu de temps à ces choses-là parce que c'est important. Après ça, il y a d'autres choses qui vont arriver. Non, c'est sûr qu'il y a des moments dans la semaine que c'est important, ou des temps dans l'année où est-ce que là, il n'y a pas le choix de donner. Il faut aboutir telle chose, il faut arriver avec des solutions, il faut parce que ça fait partie de la vie. Mais que ce soit toujours comme ça, ben c'est non. C'est non. Et dites-le à la maison, c'est non. Parce que c'est mieux de dire non que d'avoir une famille qui s'écroule. Et c'est mieux de dire non que de te retrouver à ton enfant il y a 15 ans et tu n'as jamais forcément fait d'activité avec ou quasiment pas et tu ne le connais pas, il te parle et tu te dis, mais comment ça, il est rendu qu'il parle comme ça, il pense comme ça, il fait... Ben, c'est parce que tu n'auras pas dit non à des choses qui sont externes, beaucoup moins fortes en termes d'importance et de priorité dans ta vie, et tu te retrouves avec des regrets.
Et je pense qu'il y a un domaine important, j'ai vraiment à cœur d'en parler, c'est les pasteurs. Vous devez vous aussi apprendre à dire non. Et je sais que ça paraît difficile parce que ça touche au service de Dieu, donc c'est presque sacré. Mais les soins pastoraux, les brebis qui vous appellent au secours à toute heure du jour et de la nuit ne peuvent pas dominer sur vos enfants qui ont des besoins, votre épouse, votre époux, dans certains cas, qui ont besoin aussi. Et il y a des moments où il faut dire non. Il faut vraiment savoir, et des fois, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour discerner si réellement cet appel au secours est une vraie priorité, parce que peut-être que vous n'avez pas vu vos enfants depuis 3 semaines et que vous êtes à peine rentré à la maison et on vous appelle déjà, vous allez devoir repartir. Il y a des décisions à prendre. Et parfois, pour les pasteurs, le non doit aussi être une solution parce que la Bible a dit que celui qui ne prend pas soin de sien, de sa famille proche, est pire qu'un non-croyant, est pire qu'un infidèle dans certaines versions. Et ça, c'est valable pour tous les enfants de Dieu. Donc, je m'arrête là, je pense que l'information est claire. Frank, on va voir maintenant avec toi le rôle de l'époux, le rôle du père, du mari dans un foyer chrétien dans la rubrique famille.
Donc, le rôle du mari dans le foyer, super important de le comprendre. Je vais essayer de, j'ai essayé de diviser en quatre points avec quelques sous-points. Vous voyez comment je suis structuré. Et puis, c'est en accord avec la parole, évidemment. J'essaie moi-même de pouvoir les appliquer, mais ça prend du temps. Et je veux surtout dire aux femmes d'être patientes avec leur mari alors qu'ils écoutent et qu'ils vont commencer à mettre en place. Il y a des moments où est-ce que là, on sent que ça fait 4-5 semaines, ça va bien, et on applique, et là, après ça, on a un petit creux, et puis on remonte. Bon, ça fait partie de la vie, OK? C'est très, très compliqué d'être constant à longueur d'année tout le temps, mais on essaie d'y arriver. Premièrement, le mari, c'est le chef de la famille, c'est le leader. C'est ce que la Bible a établi. C'est comme ça que Dieu voit les choses. C'est pas selon ce que le monde dit. C'est toujours en accord avec la parole, comme on le sait. Ici, à Bonjour chez vous, à MMCI d'ailleurs, le mari est le leader principal de la famille. Évidemment, il avance avec sa femme. Ils se mettent d'accord sur les points, mais son rôle à lui. Premièrement, un leader, qu'est-ce que ça fait? Ça dirige. Ça donne une direction. Et puis, vous allez voir sur certains points comment est-ce que ça peut s'appliquer. Donc, premièrement, comment est-ce qu'il peut diriger avec l'aide du Saint-Esprit? C'est qu'il va sentir, il doit être sensible au Saint-Esprit. Il doit sentir si la famille commence à tirer trop dans une direction ou qu'on sent que l'atmosphère devient conflictuelle. Il commence à avoir une régularité dans, admettons, le manque de respect. On voit que la famille en soi, le noyau familial, commence à pas être comme que c'était auparavant. Il commence à y avoir des shifts. Oh, t'as un peu, là c'est... Le rôle, normalement, du mari, la femme aussi va être sensible à ça. Mais le mari va voir, constater et dire non, c'est pas comme ça qu'on est, on revient sur la bonne track. On se réaligne avec comment on est. Un leader, un dirigeant, bien c'est ça, il va diriger, il va se dire non, on est en train de s'égarer, on revient vers là. Après ça, il va établir et il va vouloir garder les valeurs de la maison. La maison, votre famille, le noyau de la famille. Qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé même au niveau d'une entreprise. Ça va être référé comme étant un peu la culture ou l'ADN d'une entreprise. Mais la famille a des valeurs, a vraiment des valeurs sur lesquelles la famille est fondée. Et nous, c'est la parole de Dieu. Donc, je donne des exemples juste pour que ça vous parle. Exemple, dans notre maison, telle émission ou type d'émission, telle musique, ça n'a pas sa place. Et là, le mari va garder les valeurs et va s'assurer que c'est appliqué ou mis en place. Exemple, dans notre maison, on parle, on ne crie pas parce que c'est un endroit de paix. Il va être celui qui va veiller à ça. On commence à voir, ça fait 2-3 semaines, le ton, il lève, ça crie, les enfants, ils... Oh, attends un peu. On est le gardien, on observe, on ramène et on garde l'équilibre. Dans notre maison, on ne pratique pas la vengeance. Dans notre famille, on veut honorer Dieu par tout ce que nous faisons. Ça, les gens et vos enfants, en fait, en vieillissant, vont se rappeler, ils vont se dire... Dans notre famille, c'était comme ça. Ils vont se rappeler qu'il y avait un système de valeurs, il y avait une fondation sur laquelle on avait bâti et qu'on vivait. Et c'était normal, c'était comme ça. Ils vont se dire, mais moi, quand j'étais jeune, on ne criait pas, on parlait. Eh bien, voilà, le père, évidemment, et la mère aussi, mais va s'assurer que ces valeurs-là sont gardées et il va pouvoir les rappeler au besoin parce que ça arrive, il faut les rappeler. Il va être sensible à la direction du Saint-Esprit. Et encore là, des exemples. Il sent qu'il doit... parler à ses enfants. Moi, j'ai deux garçons. Peut-être que je vais sentir que là, je sens qu'il y a quelque chose. Dans les temps de prière, je suis sensible au Saint-Esprit et à où est-ce qu'il veut m'amener par rapport à ma relation avec mes enfants. Il va sentir qu'il doit passer plus de temps en famille. Pour X raisons, il y a une saison, il y a un mois, là, je dois passer plus de temps. Après ça, il va manifester le fruit de l'Esprit, évidemment. Et un autre exemple, il y a quelque chose de bizarre dans la maison. Il va prendre autorité. Il va lutter dans la prière. Il va être celui qui va garder sa demeure, son foyer, sa maison, sa famille. Il va veiller, il va diriger et puis il va garder. Deuxième point, il va aimer et il va rassurer. par ses paroles, premièrement. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer. Hein. Moi, je trouve ça tellement cool quand un papa parle, et c'est rassurant, quand il est rempli d'amour, quand il prend ses enfants, quand il prend avec sa femme, il rassure. Il y a un moment de trouble, il y a un moment de difficulté, mais là, le père prend position. Inquiétez-vous pas, ça va aller. Et quand papa parle, c'est important. Je veux vous encourager à rassurer. Quand c'est des moments compliqués, il semble y avoir un manque à droite, à gauche. Les choses sont compliquées dans le monde actuel dans lequel on vit. Mais papa est celui qui rassure par ses paroles, et non seulement par ses paroles, mais par un amour qui est démontré en action. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Ton amour va se démontrer. » À un moment donné, tu dois comprendre et tu dois venir même dans la prière, tu dois vouloir comprendre comment chaque personne doit être aimée. Parce que chacun de tes enfants ou ta femme doit être aimé d'une façon particulière. Et tu dois apprendre à découvrir ces méthodes-là et les appliquer. Super important. Donc là, je le rappelle, premier point, c'était que le mari va diriger. Il va garder les valeurs, etc., de la maison. Deuxième point, il aime et rassure. Par ses paroles, par son amour démontré en action. Troisième point, il montre et enseigne par l'exemple. Super, super important. Je veux à tous les papas qui écoutent, qui vous écoutez, ne méprisez pas le fait de démontrer par l'exemple. Tu vas aider aux tâches ménagères, que ce soit intérieur, extérieur. Moi, personnellement, avec Nadia, moi, tout ce qui est extérieur, c'est moi qui le fais, à 100%. C'est moi qui s'occupe de l'extérieur et j'aide aussi à l'intérieur. Il y a des tâches que, comme j'ai dit, à chaque semaine, il y a une routine qui est là. Je sais que je vais aider à faire telle ou telle chose. Et puis, il y a un équilibre qui est trouvé, évidemment, là-dedans. On se met en accord, mais tu vas montrer par l'exemple. Parce qu'après ça, quand papa il va parler, une fois que les enfants sont rendus plus vieux, bien, il va dire, c'est à ton tour de maintenant tondre le gazon. Il va avoir vu même papa faire. Papa va pouvoir lui montrer, etc. Il fait partie de la vie comme ça, par l'exemple qu'il montre. Les devoirs avec les enfants. Soyez impliqués dans la vie de vos enfants autant que c'est possible. Je sais que des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est long. Des fois, tu te dis, on commence une nouvelle année et des enfants, c'est plus compliqué que d'autres parce qu'il y en a, tu regardes ton ami, puis lui, ses enfants, il fait rien de scolaire avec eux. Puis ses enfants ont des notes qui sont extraordinaires et toi, c'est la fin du monde, c'est compliqué. Ben, décourage-toi pas, sois présent. Parce que Evelyne l'a dit, surtout pour les pasteurs, je te garantis que ta famille est plus importante. Tu dois prendre soin de ta famille avant toutes les brebis qui sont là. Il y a des urgences qui peuvent être là. Mais à quoi ça servirait de gagner tout le monde si tes propres enfants se perdent parce que papa n'a pas été là? C'est terrible. Après ça, dans la consécration, tu vas être un exemple. Les disciples avec Jésus ont vu comment ils agissaient. Paul a dit à ses églises, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Tu veux que tes enfants suivent et servent le Seigneur, soient un exemple dans ta consécration. Je n'ai rien d'autre à dire. Vous savez ce que c'est, de lire la parole. Savoir que les enfants savent que le soir, quand ils sont couchés, papa fait telle ou telle chose. C'est d'être un exemple à ce niveau-là. Quatrième chose, mais ça, c'est le fun en plus. Les choses qui font que papa, c'est un papa. Ça, c'est cool. Tu montres à faire du sport. Tu montres comment changer un pneu sur une voiture si tes enfants sont rendus plus vieux. Comment interagir avec les autres. Les choses qui concernent Dieu, tu expliques ces affaires-là. Ça fait partie, c'est un privilège, une bénédiction. Et puis, moi, j'aime beaucoup leur montrer à faire du sport. Point 4, et le dernier point.
Et si tu avais une fille, tu lui montrerais comment jouer au Barbie?
Sûrement, oui. Elle ferait du sport aussi, certainement. Point 4, dernier point. Pourvoir aux besoins de la famille, premièrement. Aujourd'hui, on est dans un autre type, évidemment, de société, si on peut le dire. C'est pas comme il y a 200 ans. Mais à moins d'un accord particulier entre le mari et la femme, il y a des couples qui, parce que la femme a des études, etc., et tout ça, je connais des gens où ce que le mari prend plus soin des choses à la maison et la femme, c'est elle qui, elle pourvoit financièrement. À moins d'un accord particulier comme ça, le mari est appelé à pourvoir et à s'assurer qu'il ne manque de rien. Super important. Être responsable dans la gestion financière de la maison, au travers, évidemment, de dîmes et offrandes, le fait que même que les enfants savent que vous donnez, que vous soutenez l'œuvre de Dieu, super important. Après ça, le Proverbe 27, verset 23 dit, « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » Financièrement parlant, à l'époque que ce proverbe a été écrit,
les richesses et même les finances étaient rattachées à tes troupeaux qui étaient là. Et ici, ça dit « Connais bien chacune de tes brebis et donne soin à tes troupeaux. Prends soin de ce que Dieu a mis entre tes mains. Mm-hmm. » Il y en avait qui avaient un gros troupeau, d'autres étaient plus petits. Mais prends soin de ce que Dieu a mis entre tes mains financièrement. Sois un bon gestionnaire, papa. Sois travailleur, Proverbe 10, les versets 4 et 5. « Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit. Mais la main des personnes actives est source de richesse. » Et le verset 5, « Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé. Mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Encore là, ça revient au fait d'être travaillant. Tu dois apprendre à comprendre les saisons, comme ici, « Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé. » C'est pendant quel temps est-ce qu'on doit travailler? Pendant l'été. Il y a des moments dans ta vie où est-ce que ça va être un temps un peu plus de repos, où est-ce que tu vas avoir amassé, où est-ce que tu vas avoir bien géré, tu vas avoir des choses de mis de côté. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager à être travaillant. Ne laisse pas les choses aller par paresse. Ne te mets pas forcément juste sur l'aide sociale parce que tu n'as pas envie de travailler. L'exemple que tu vas laisser, c'est tout ça, c'est tellement... Sois quelqu'un de travaillant et qui pourvoit aux besoins de ta famille. Et je vais terminer avec ce dernier point. S'assure que personne ne manque de rien. Le père va s'assurer que personne ne manque. Souvent, on a vu que c'était les mamans qui faisaient sacrifice. Les mères se sacrifiaient pour que les enfants ne manquent de rien. Mm-hmm. Et c'est naturel, la mère va le faire encore et encore et encore. Mais je crois vraiment que les pères doivent aussi apprendre à faire cela. Dans 1 Timothée 5,8, on le lit tantôt, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. Donc, sacrifions-nous pour que nos enfants, que notre femme, que notre foyer, il y ait ce qu'il y a besoin d'avoir. Si pendant un certain mois, c'est serré financièrement, ben achète-toi pas les nouveaux souliers qui sont là que tu aurais voulu avoir parce que tes enfants ont besoin de plus. Mm-hmm. C'est tellement terre à terre, ça semble tellement logique. Mm-hmm. Mais pourtant, beaucoup ne le font pas.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, je veux t'encourager à être un mari qui va bien prendre soin de sa famille et de son foyer.
Merci beaucoup, Frank. Super rubrique, vraiment très, très intéressante et à mettre en pratique. Alors, comme Frank, tu le disais, hein, faut être patiente en tant qu'épouse dans ces domaines-là parce que peut-être qu'il y a des maris qui n'ont pas eu justement de bons modèles et ce rôle de père, c'est aussi ce rôle de bon mari, c'est un modèle qu'on donne aussi à nos enfants, que ce soit aux garçons pour les maris qui seront à leur tour et aux filles pour le choix du mari qu'elles voudront, les critères, les attentes qu'elles mm-hmm. auront vis-à-vis de leur mari. Donc il y a ce rôle de modèle et vraiment que les épouses puissent être patientes envers leur mari dans ce domaine-là. Parce que c'est ça, ça peut prendre du temps à se mettre en place. Et puis, je vais vous encourager, mesdames, à laisser de la place aussi à vos maris dans les différents domaines que Frank a énumérés. Il y a des fois des épouses hein, qui ne laissent pas leur mari prendre le rôle, justement, assumer ce rôle, être ce leader de la famille et les différents points que tu as partagés. Et c'est aussi, nous, notre responsabilité en tant qu'épouse de laisser la place à nos maris pour qu'ils puissent être ces hommes qui vont prendre soin de leur famille. Merci à tous les deux pour cette belle émission. On va se retrouver demain. On continue donc cette mini-série. Demain, on va vous encourager à faire une pause pour apprécier les choses simples. Mais il y a des fois où on a besoin juste de faire une pause et de souffler. Et c'est ce dont on va parler demain. Alors, c'est peut-être des thèmes qui sont très terre-à-terre ces derniers jours, mais extrêmement importants dans les temps dans lesquels on est. Donc, on se retrouve demain. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.